France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Tout le monde aime la boulette, je crois, les enfants, les adultes. Même quand les enfants n'aiment pas aller à la viande, on triche. Les légumes, pareil, on triche un peu et on met dedans ce qu'on veut.
Il y a des boulettes dans chaque ville de Belgique et les recettes ne sont pas les mêmes.
On va faire des petites boulettes au cumin, qu'on appelle aussi les mandigues. Alors, il y a un débat sur l'origine de la recette. Est-elle oranaise ou marocaine?
Pour accompagner le couscous au poisson, on va faire les boulettes de poisson, à savoir la kefta.
La terre présente des agrégats qui sont du même type que les boulettes culinaires. C'est-à-dire, il y a une grande variété dedans et le grand mystère est de savoir comment ça tient.
J'ai fait la boulette.
Simon, tu arrêtes de faire des boulettes, c'est péché.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster plein feu aujourd'hui sur une cuisine qui se met en boule, une cuisine qui arrondit les angles, une cuisine qui tourne rond sans tourner en rond, la cuisine de la boulette, ou plutôt des boulettes, tant celles-ci sont nombreuses et répandues dans toutes les cuisines du monde. On est ravis d'explorer aujourd'hui l'univers sphérique, universel et vertigineux de la boulette avec notre invité Jean-Noël Escoffier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes lyonnais?
Oui,
ça,
tout à fait.
Je ne vais pas vous le reprocher.
Non.
Directeur, conseil dans le digital et surtout passionné de cuisine. J'ai envie de dire que c'est obligatoire avec un patronyme pareil.
Oui, ça peut aider, ouais.
Même s'il n'y a pas de lien de parenté.
Exactement, il n'y en a pas.
Avec le grand Auguste Escoffier qui a codifié au début du XXe siècle la cuisine française. Vous avez boulotté beaucoup de boulettes et vous avez signé un livre référence que j'ai à mes côtés. Je l'ai adoré, je l'ai boulotté, je l'ai vraiment apprécié. Autour du monde en 80 boulettes, recettes salées, sucrées et végétariennes aux éditions Flammarion. Un prodigieux travail à la fois culturel et culinaire avec quand même 80 recettes, c'est marqué dans le titre, dont beaucoup que je ne connaissais pas personnellement, et des photos signées
Rina Noura.
Rina Noura, un très beau travail pour vous accompagner tout au long de cette émission. Une autre spécialiste de la boulette, c'est notre libraire gourmande qu'on connaît bien dans l'émission, Déborah Dupont. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez aussi travaillé sur la boulette dans un livre remarqué et remarquable, Les boulettes de nos rêves aux éditions First, avec les photographies de Géraldine Martins. Hein, c'est un partenariat qui dure, même si ça c'était un de vos premiers ou le premier, non?
C'était le deuxième.
C'était le deuxième après?
Avant on avait eu les cookies, après on a eu les brioches et les petits gâteaux.
Et vous allez nous proposer, c'est aussi l'originalité de votre livre, des recettes plus créatives que traditionnelles. Même s'il y a aussi, bien entendu, beaucoup de traditions dans votre livre. Nous avons également avec nous, et on en est ravis, notre spécialiste de la cucina italiana, Alessandra Pierini. Buongiorno.
Buongiorno.
Comment ça va?
Benissimo, grazie. Très
alors
bien.
Aujourd'hui au menu?
Au menu, je vous donnerai des conseils pour rester en bonne santé.
C'est un rapport avec les boulettes?
Absolument.
Ah, et bien écoutez, je suis très intrigué. Et puis également, notre compagnie, notre chroniqueuse vin, Justine Knapp. Bonjour Justine.
Bonjour.
Que vous a inspiré la boulette dans le verre?
Alors le programme du jour, c'est qu'on va aller boire un verre au pays de la boulette.
Ouh là là, il y a un pays désigné de la boulette, mais alors à mon avis, on ne sait pas lequel, il y en a quand même beaucoup qui revendiquent ce statut. Pour interagir avec nous en direct, un mail à onvadéguster@radiofrance.com ou bien le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Et pour retrouver tous les contenus de l'émission, recettes, podcasts, bonnes adresses, rendez-vous sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Juste avant de s'intéresser aux boulettes, on commence cette émission par une petite dégustation à l'aveugle. Chers amis, vous avez un petit gobelet sous vos micros qui contient... Bah quoi justement?
Un liquide très ambré,
bravo.
Très corsé au nez.
Bravo Déborah.
Ouais, ça sent la fermentation à plein nez vu la complexité, mais en fait je trouve que c'est très iodé. Mais qu'on a aussi une note boisée, quelque chose presque de beurre noisette, un peu fenugrec comme ça.
Oh! Non mais c'est bien, j'aime beaucoup
c'est
vos commentaires de dégustation. Oui, absolument. Justine a décidément le palais affûté. Jean-Noël Escoffier?
Oui, c'est assez salé, c'est assez fermenté, on sent bien un goût assez salé je trouve.
Alessandra?
C'est vraiment le goût umami. Il y a un petit peu de tout qui ressort.
Et lâché. Ce goût qui est censé provoquer effectivement du bien-être, de la persistance, de la profondeur. Vous avez prononcé le mot de umami. Vous avez raison, même si ce n'est pas le nom de cette spécialité. Quelqu'un ose?
Ça ressemble un peu à de la colatura
oui,
dans
le choix. Poisson,
ouais, c'est du garum ou un gnocchi même.
Bon, bah voilà. J'ai entendu Collatura di Alici, ça on est du côté de l'Italie. J'ai entendu Nyok Mam du côté du Vietnam. J'ai entendu Garum, la spécialité romaine. Eh ben, c'est du Garum, mais ce pourrait être évidemment aussi du Nyok Mam. D'ailleurs, c'est presque du Nyok Mam. Figurez-vous qu'on a affaire à un produit totalement français, mais de savoir-faire vietnamien. C'est du Nyok Mam, mais qui s'appelle Garum. Alors vous allez voir, c'est un jus de poisson fermenté qui condimente de très nombreux plats de la cuisine vietnamienne, vous êtes au courant. Et la personne qui fabrique ce produit a préféré l'appeler Garum, car il est réalisé exclusivement avec des anchois français de Méditerranée, du sel de Méditerranée, un peu finalement comme la fameuse liqueur de poisson des Romains que Pline l'Ancien évoquait déjà dans son Histoire naturelle. Ce Garum est réalisé dans les alentours d'Uzès, dans le Gard, par Li Tan Na, une Française d'origine vietnamienne, selon le savoir-faire de ses grands-parents, qui réalisaient, comme beaucoup de familles d'ailleurs au Vietnam, leur garum à la maison. Un an de fermentation pour celui-ci. Donc c'est des anchois qui sont mis au sel dans des jarres en terre cuite, de fabrication française. Et contrairement aux producteurs de Cetara, en Italie, qui font la fameuse Collatura di Alici, qui est aussi cet élixir ambré à base de jus d'anchois fermentés, à Cetara, ça se passe dans des tonneaux en bois.
Un bois, absolument. C'est ça, oui.
Alors que là, pour ce Nyok Mam, ça se passe dans des jarres en terre cuite. Voilà. Et Lee fait attention à tous les détails, avec évidemment des anchois de Méditerranée issus d'une pêche durable française pratiquée au Gros du Roi. Le sel est bio et vient de Camargue. Il y a même une petite branche de thym sauvage qui est plongée dans la bouteille. La voici, la bouteille. Garum, un des premiers garums français. C'est assez émouvant, non ?
Très bonne nouvelle.
Un petit tour de main pour utiliser ce liquide extrêmement aromatique.
Juste en fin de cuisson, sur des spaghettis revenus juste avec un tout petit peu d'huile d'olive et de l'ail, c'est excellent. Dans une salade, même dans un risotto tout simple, ça va relever les autres saveurs en fait. Ça va donner du peps à l'assiette. Ça va en même temps condimenter, légèrement salé. On n'est pas obligé donc de mettre d'autres assaisonnements. Avec les aubergines, les légumes, c'est très très bon. On peut en faire plein de choses.
L'Itana conseille justement de verser un petit peu de garum comme ça sur des aubergines vapeur. Alors c'est pas vraiment la saison, on va attendre la saison évidemment, mais des légumes vapeur ou même du poulet vapeur, ça marche très bien. Toutes les infos sur ce garum du Gard sur franceinter.fr à la page On va déguster. Pour préparer, réaliser et mettre en onde et en boule cette émission, Laurent Thomas, Benjamin Troncin, Fabrice Ribault, dans un instant Atelier Boulette avec notre invité Jean-Noël Escoffier, juste après À nos cœurs solitaires de Stéphane Necher, choisi par Djoubaka. Ça roule sur France Inter.
Tu sais d'avance que je regrette le moindre mot que je vais dire, mais je ne veux pas. Que nous devons souffrir. Tu te tiens droite sur nos têtes. Tu viens d'avoir qu'un seul désir. Que nos cœurs solitaires soient au bout de la peine. Que le monde soit
apprécie des rives du Mékong aux plages carioca, des estaminets liégeois aux fjords suédois, Elles accompagnent à merveille les pique-niques anglais, les Noëls espagnols, les mariages iraniens ou les bar mitzvahs. Elles s'invitent aussi à la table des repas les plus modestes. Les rues de Beyrouth, de Palerme, d'Osaka, de Mumbai ou d'Istanbul s'animent à la perspective de leur dégustation. Des confréries les honorent, des monuments leur rendent hommage, et il arrive même que leur existence soit rattachée à un événement divin. Elles peuvent être veggie, vegan, à la viande, au poisson, salée ou sucrée. Elles se mangent froides ou chaudes, en entrée, plat ou dessert. La boulette est la préparation la plus partagée au monde, et chacun la reconnaît à ses rondeurs.
Merci Jean-Noël Escoffier, vous lisiez pour nous les premières phrases de votre avant-propos dans votre livre « Autour du monde en 80 boulettes ». Recettes salées, sucrées, végétariennes, c'est chez Flammarion, on a compris toute la diversité hein, des boulettes évidemment. Et vous énumérez d'ailleurs dans la suite de votre introduction de nombreux exemples pour bien montrer l'universalité de cette spécialité. Polpette en Italie, on va évidemment en parler avec Alessandra. Kefta au Maghreb, kofte en Turquie, albondiga en Espagne, klopse en Allemagne, je suis pas sûr d'avoir le bon accent, klopse.
Klops.
Klops. Ou encore acarajé au Brésil. Alors on va essayer de se pencher sur une définition de la boulette. Attention, nous avons Déborah Dupont aussi qui connaît bien le sujet. Plusieurs spécialistes se sont cassés les dents avant vous hein, sur la boulette. Il y a beaucoup de monde d'ailleurs qui s'intéresse hein, à ce sujet. Il y a même des gens qui se sont aventurés dans ce qu'ils ont surnommé la boulettologie. C'est du sérieux.
Ah, ça, je ne sais pas. Je ne connais pas la boulettologie.
Ah d'accord. En tout cas, on sent dans votre livre que vous marchez sur des œufs, puisque vous commencez par nous dire qu'il n'existe pas de définition universelle de la boulette.
Exactement. En étudiant les boulettes du monde entier, comme j'ai pu le faire pendant les années qui ont nécessité le recueil de toutes ces recettes et de ces histoires, j'ai vu que, en fait, si en France, on aime bien définir les choses précisément et qu'on a bien entendu une case pour la boulette, pour la croquette, pour le kromeski, pour la bouchée, c'est pas le cas dans d'autres pays. Et effectivement, en Angleterre, on parle de bowl ou de meal bowl et également de dumpling.
Oui.
Et les dumplings sont des boulettes de pâte souvent bouillies, dans lesquelles on range également les raviolis, par exemple. Alors que nous, on considère qu'un ravioli n'est pas une boulette. Et c'est le cas dans beaucoup de pays. En Inde, par exemple, on parle de koufta et on parle également de ladou. Les koufta étant salés, les ladou étant sucrés. Et par conséquent, j'ai pris la décision dans le livre de faire en sorte que la boulette soit la plus inclusive possible.
Une définition, alors vous la qualifiez d'inclusive, d'autres diront qu'elle est un peu laxiste, dans le sens où elle accueille pas mal de monde, y compris des spécialités qui n'ont pas vraiment la forme de boulette.
Oui, oui, je me suis permis pas mal de liberté dans le livre avec certaines boulettes, je l'avoue complètement. C'est pas le cas de 95% des recettes, mais il y a effectivement des recettes qui pourront surprendre les lecteurs, notamment... une poutine à trous, par exemple, qui est la première recette du livre, qui ressemble plutôt à un chausson, mais que je voulais mettre dedans parce que je trouvais ça très bon.
Et juste la définition d'une poutine à trous.
Une poutine à trous, c'est une sorte de gros chausson rond dans lequel on va mettre des fruits qu'on va faire cuire au four, et ensuite on va verser un sirop sucré dessus. Pour une fois qu'on pouvait parler de poutine en bien, je trouvais ça intéressant. Et du coup, voilà, j'ai décidé de mettre celle-ci également. Et bien entendu, j'accepte tout à fait que des personnes puissent ne pas accepter que ce soit considéré comme une boulette.
Vous proposez dans votre livre une définition officielle de la boulette, parce qu'en fait vous êtes un peu frustré, vous dénoncez même la pauvreté des définitions dans nos dictionnaires de langue française. C'est vrai que aucune institution, aucun dictionnaire ne s'est vraiment intéressé à une définition de la boulette culinaire. Je lis la définition officielle de Jean-Noël Escoffier et je demande à Déborah Dupont si cette définition lui convient. Nom commun féminin, la boulette est une préparation culinaire composée d'un mélange de plusieurs ingrédients qui peuvent être hachés, amalgamés, pétris à la main et parfois enveloppés dans une pâte ou une panure. Elle peut être consommée crue ou cuite, sa forme est souvent arrondie et en volume, et sa taille est variable, bien qu'elle soit souvent ingérable en une seule bouchée. Elle peut être salée ou sucrée. Déborah.
C'est très extensif. Non, c'est vrai que moi, j'avais regardé en fait le Larousse, hein, bêtement, et le Larousse est beaucoup plus raccourci. C'est une préparation à base d'ingrédients hachés que l'on roule pour façonner en boule.
Point barre.
Point barre.
Donc on était plus dans une définition effectivement rigoriste, et en même temps, il y a Pierre Brice Lebrun, hein, l'auteur du Petit Traité de la Boulette, qui vous pardonne largement d'inclure y compris des spécialités... où la boulette a besoin d'un accessoire pour la tenir. Parce qu'en fait, je crois que le vrai enjeu, c'est que la boulette, normalement, ouais. doit se tenir toute seule et n'aurait pas besoin de pâtes, de crépinettes, de bardes, de panures tout autour pour la tenir.
Oui, c'est une définition qu'il a dans son livre « Le petit traité de la boulette ». Et effectivement, on peut en débattre longtemps. La spécificité de la boulette est que voilà, il y a de la rondeur dans les débats et que de toute façon, on peut toujours s'accorder à partir du moment où on les mange à la fin. Donc.
Mais d'ailleurs, il a sorti, il y a quelques mois, « Le petit traité des farcis ». Où là, on a toutes les chaussons, raviolis, gyoza et compagnie. Donc ça veut bien dire que au Sureau, dans la collection de Pierre-Brice Lebrun, on a deux livres différents. Un qui traite des boulettes et un qui traite des autres choses, on va dire farcis, chaussons et compagnie.
Avant d'entamer une première recette avec vous, cher Jean-Noël Escoffier, on peut quand même lister quelques-unes des boulettes qui sont décrites et cuisinées dans votre livre. Les matzah balls, on peut évidemment pas échapper à ces boulettes juives ashkénazes au pain azim.
Exactement, qui sont consommés pour Pessah traditionnellement, mais qu'on retrouve à tout moment de l'année. Et c'est vrai que cette boulette, par exemple, je l'ai rangée dans les boulettes nord-américaines. Alors, elles sont d'origine juive ashkénaze, mais c'est vrai que c'est tellement emblématique de ce qu'on peut retrouver dans les délis new-yorkais et à Brooklyn en particulier, que voilà, je l'ai classée dans cette région géographique.
Puisque vous classez effectivement vos 80 recettes par aire géographique, ça nous permet de voyager un peu partout. On voyage également aux Antilles avec les acras de morue. Tiens, définition.
Oui, ce sont des beignets en fait de morue dans lequel on va mélanger donc de la morue séchée avec de la farine et qu'on va faire frire. Et on les retrouve un peu partout. Au Portugal, on appelle ça des pastéis également. Puis bien entendu, dans toutes les Antilles.
On fait connaissance également avec une spécialité belge, une grosse boulette de viande que l'on mange avec une sauce aigre-douce au vinaigre et au sirop de Liège. La Belgique s'auto-proclamant souvent comme le pays de la boulette. Il s'agit du...
Du boulet de Liège sauce lapin. Le boulet, c'est parce que c'est une grosse boulette, en fait. Donc, il y a une taille de boule de billard. Et d'ailleurs, c'est par cette recette, en fait, que j'ai commencé à m'intéresser à la boulette. J'ignorais complètement que la ville de Liège avait comme plat emblématique une boulette, et en l'occurrence, celle-ci.
On fait connaissance également avec, attention, la couille de Suisse.
La couille de Suisse, qui est belge, comme son nom ne l'indique pas.
De Wallonie, précisément.
Oui, près de Bruxelles. Et gustativement, moyennement intéressante, on va dire. Le terme couille de Suisse, Suisse, en fait, viendrait des Suisses d'église, les laïcs qui protégeaient les églises en Belgique. Il y a des compagnons de la couille de Suisse qui, du coup, arpentent les différents villages pour en parler et pour distinguer certaines personnalités, etc.
Alors, on parle quand même d'une spécialité sucrée, hein, à base de...
Pâte de pain bouilli, de l'œuf, de la levure, et on mange ça avec un beurre fondu et de la cassonade. Voilà, c'est pas très sophistiqué comme préparation.
On n'échappe pas dans votre livre à une boulette de viande, attention, suédoise, rendue célèbre par une enseigne de meubles au logo bleu et jaune.
Oui, les Côtes Bullard qui sont célèbres dans le monde entier et grâce à cette enseigne en l'occurrence.
Quelle viande pour les Côtes Bullard ?
En fait, un mélange de viande souvent, du bœuf, du veau et du porc. Mais sachant que c'est une boulette qui à l'origine en fait était une boulette turque et ottomane. Hein, puisque c'est le roi en fait en exil qui a ramené cette boulette en Suède et qui est devenu un des plats emblématiques de la Suède alors que rien ne l'indiquait au départ.
Allez, on part du côté du Levant. Avec une spécialité que vous avez déjà dressée dans nos assiettes. Une spécialité d'ailleurs très colorée. Il y a une belle couleur pourpre. Vous allez nous expliquer pourquoi. On part où exactement, Jean-Noël ?
On part exactement dans la ville d'Alep. Alep, c'est une des plus vieilles villes au monde. Alors certes, elle a eu un drame ces dernières années.
Décidément, la Syrie, on pense aussi évidemment au séisme qui a touché ce pays. Et on pense bien sûr à cette population endeuillée.
Et Alep est le berceau de pas mal de boulettes, notamment des Kébés qui viennent d'Alep. Et ils ont dans la région d'Alep une espèce endémique de cerisier qui est assez proche de la griotte. Mmh. Et du coup, ce sont vraiment des boulettes sucrées salées qu'on mange avec une sauce à la cerise. Également, la présentation en fait est assez graphique. Génial. De ces boulettes, puisqu'on présente ça normalement sur un très très grand plat où on va étaler des triangles de pain lavache. Mmh. Et ensuite, on verse dessus les boulettes, le jus de cerise, et on parsème de pignons de pain, de menthe et de persil.
C'est excellent. Alors déjà, qu'est-ce que vous répondez aux auditeurs et aux éditrices qui sont déjà en train de râler en nous reprochant d'utiliser des cerises hors saison ?
Il y a deux choses. Celles que j'ai utilisées ici étaient surgelées, mais on peut bien entendu les préparer à l'avance et puis les garder et les congeler.
comme la confiture des rêles, hein. Enfin, on prépare ça en saison, ensuite on a notre bocal et on l'ouvre quand on en a besoin. Et l'hiver, c'est particulièrement réconfortant.
Exactement, voilà, la bonne réponse. Elles sont d'un diamètre quand même assez petit, ces boulettes.
Oui.
On a presque affaire à des gros bigarreaux pour ceux qui ont joué aux billes.
Exactement.
Dans la cour de récré.
Oui, oui, elles sont assez petites et contrairement à beaucoup d'autres recettes de boulettes où on va mélanger pas mal d'ingrédients, celles-ci sont principalement à base de viande de bœuf ou d'agneau qui sont relevées d'une épice locale qui s'appelle le bar, qui est le poivre d'Alep. Et voilà, alors on peut remplacer ça par du 7 épices éventuellement ou par du Ras El Hanout. On trouve à peu près les mêmes ingrédients qui sont dedans.
Qu'est-ce qu'on en pense autour du plateau?
Oui, un peu le côté oriental avec l'épice, hein, c'est délicieux, on la reconnaît tout de suite, on sait d'où elle vient. Et puis, ça fait ce contraste un petit peu acidulé et légèrement sucré, hein, parce que la cerise ne donne pas une grosse sucrosité. Et en même temps, la gourmandise, en fait, un petit peu, ça rend un peu plus moelleux et c'est vraiment délicieux.
Oui, c'est plus acidulé que sucré,
oui,
effectivement.
Et c'est ça qui rend le plat très frais et vraiment délicieux. Alors, question, une règle universelle pour les boulettes, et qui est aussi valable pour celle-ci, comment fait-on tenir cette farce, sachant qu'il n'y a pas évidemment d'enveloppe? Donc, la boulette tient toute seule, il y a aussi un œuf, du pain?
Non, dans celle-ci, il n'y en a pas. Mais généralement, oui, il y en a. C'est André Zanermura, je crois, qui donnait des proportions qui, en volume, disait, voilà, il faut un volume de viande, un volume de pain et un volume d'herbe. On peut rajouter également de l'œuf dans certaines recettes pour bien amalgamer le tout, mais c'est pas le cas pour celle-ci.
Mais c'est ça qui fascine, en fait, dans l'architecture de la boulette. Souvent, on a évidemment quelque chose, un agent qui permet d'agglomérer la boulette. Souvent, c'est de l'œuf ou du pain. Et là, en l'occurrence, c'est la viande qui se tient elle-même et elle arrive à conserver à la cuisson sa forme sphérique.
Oui, tout à fait, ouais.
Magie de la boulette.
Exactement.
Les boulettes d'Alep, dont vous nous redonnez le nom.
Les kebabs bilkaraz. Karaz, ça veut dire cerise, et kebab, ça veut dire grillade. On appelle ça aussi parfois les lamé bilkaraz. Voilà.
La recette est dans votre livre chez Flammarion et également sur franceinter.fr à la page On va déguster. Alors on l'a vu, hein, les boulettes s'ancrent dans des traditions très codifiées, mais ce sont aussi des supports de création infinie. C'est ce que l'on va voir avec notre chroniqueuse Déborah Dupont.
France Inter, On va déguster.
Toute ma vie, j'ai mangé des boulettes. Des boulettes de viande à la sauce tomate surtout, que je réclamais inlassablement à ma grand-mère maternelle Pouni, chez qui je déjeunais tous les mercredis midi, jusqu'à mon entrée en fac de droit. Des boulettes à la farine de matza, dans un bouillon de poule aussi, lors des fêtes juives ou pour soigner les rhumes hivernaux. Ces recettes apparaissent d'ailleurs dans les premières pages du précieux carnet de recettes familiales qu'elle m'a offert vers l'âge de 10 ans. Boulettes refaites inlassablement depuis pour des amis ou mes enfants, et ce constat à chaque fois... Elles font l'unanimité. Ce sont les premières lignes de votre livre, Déborah, que vous avez publié en 2020, Les boulettes de nos rêves. 60 recettes gourmandes avec des recettes classiques, on l'a dit, mais aussi des recettes de famille, des recettes signatures, des recettes un peu plus personnelles. Monde infini des boulettes qui, vous aussi, j'imagine, vous a donné le tournis, Déborah.
Oui, et puis qui m'a aussi donné cette impression qu'on était vraiment beaucoup à avoir grandi avec les boulettes. D'ailleurs, vous avez donné votre recette de boulettes familiales,
et
elle
oui.
vira aussi avec
c'est
ses
vrai.
Côtes bullard. Donc, on se rend compte quand même que c'est une tradition partagée.
Quand on fouille dans nos souvenirs, on trouve toujours une boulette, c'est
ouais,
ça l'idée.
C'est un peu ça, on se rend compte que c'est la recette de grand-mère, c'est effectivement aussi souvent une cuisine de reste. On ne sait pas quoi faire avec la fin d'un pot-au-feu, bah, on récupère la viande du pot-au-feu, on la hache, on la mixe, on peut faire un chi parmentier.
Mais ça c'est important parce qu'il y a même certains observateurs de la boulette qui disent que finalement, ce souci de recycler les restes a donné naissance à la boulette.
On est sur du plat du pauvre aussi, hein. On est quand même sur des... C'est rare d'avoir des boulettes avec des produits nobles. On est souvent effectivement sur beaucoup de mie de pain, ça permet bah, d'avoir du volume. On va mouiller avec du bouillon, on va rajouter des herbes. On est sur, oui, de la cuisine pauvre. Et je pense, Alexandra, je vois secoue la tête,
on va en parler
la
avec
tradition
elle,
italienne.
Vraiment, cucina po, on verra.
Bah, oui. Donc c'est ça ce que j'avais trouvé très intéressant sur la boulette. Et puis le fait qu'effectivement on peut faire des boulettes avec à peu près tout et n'importe quoi. Alors je rappelle le contexte, ce livre a été fait au printemps 2020,
oui.
c'est-à-dire en plein confinement. Donc on était quand même dans une situation très particulière. Par exemple, Alba Pezzone m'a donné une recette typique de boulette napolitaine que faisait sa grand-mère. Elle était confinée à Naples. Donc on se parlait à distance, elle m'envoyait des vidéos, elle me guidait à distance pour que j'arrive à réaliser une boulette que je n'avais jamais réalisée. Une autre amie, Juliana Aline, qui elle est brésilienne, m'envoyait donc des vidéos pareilles de grand-mère brésilienne. Je lui disais, mais je ne comprends rien à ce qu'elle raconte. Et je ne parle pas brésilien, je ne parle pas portugais. Et donc je me guidais, donc je lui envoyais des photos en lui disant, est-ce que là la texture est bonne? donne, est-ce que cette souplesse de pâte, est-ce que... Donc ça a été un livre très particulier et qui pour moi... C'est un de mes préférés de la série de 4 parce que ça a été un contexte complètement surréaliste dont on se souvient tous. Et donc, pour moi, on est plus sur des aventures humaines et pour chaque boulette d'invités, donc il y a à peu près une vingtaine d'invités, à chaque fois, on a une anecdote. Vous, c'était la Népita qu'il a fallu que je cherche, que je trouve, alors que tout était fermé.
C'est ça.
Cette fameuse herbe corse.
Oui, à la boulette de veau de ma grand-mère de Bastia qui utilisait effectivement une herbe aromatique. Et là, ça a été compliqué de la trouver. En tous les cas, ça prouve que la boulette, ce sont aussi des histoires de famille. Et vous avez décidé de nous en cuisiner deux, priorité à laquelle d'ailleurs ?
Oh bah priorité à celle qui ressemble à une boulette de viande, mais qui ne contient absolument pas de viande.
Super. Petit jeu, on devine.
Noisette. Et moi j'adore.
Ah ouais.
Dès qu'il y a la noisette.
Et puis il y a un petit croquant en plus qui est irrésistible. Vous aimez Jean-Noël ?
Oui, beaucoup. Ouais.
C'est une boulette faite à base de tofu.
Non, pas de
viande.
Pas de protéines animales.
Ah non,
de l'œuf quand même.
Non. Si, j'ai mis de l'œuf parce que sinon ça s'amalgame pas.
Mais pas de chair animale.
Pas de chair animale. En fait, 300 grammes de tofu. Mm-hmm. L'idéal est quand même de le couper en petits cubes et de faire un peu sécher entre deux feuilles de papier sopalin absorbant pour vider le plus de liquide possible. Et ensuite, vos 300 grammes de tofu, vous les mixez avec un petit oignon, avec 50 grammes de noisettes entières, un peu de persil. Vous rajoutez ensuite deux œufs, un peu d'épices, donc là j'ai mis du cumin, mais juste cumin, sel, poivre. Et ensuite, vous allez amalgamer. Alors, c'est une texture très friable, on a l'impression d'avoir quelque chose de granuleux. Donc vraiment, on la façonne avec les mains, on se mouille un peu les mains, histoire que ça colle pas trop. Ensuite, on le roule dans une poudre de noisette, et on fait cuire ça dans une poêle avec de l'huile.
C'est ça qui donne cette gourmandise, c'est qu'on a vraiment le côté noisté.
Et toasté,
exactement.
Comme on peut faire pour des boulettes de viande. On a certaines recettes de boulettes de viande où effectivement on va les rouler dans une panure, on va mettre de la chapelure, des choses comme ça pour rajouter du croustillant. C'est ça ce qui est intéressant vraiment avec les boulettes, c'est qu'on peut doser exactement le degré de moelleux, le degré de croquant, le degré d'humidité. Celles-là sont plutôt sèches, on peut imaginer une sauce pour les tremper et on se rend compte que l'autre boulette que je vous ai apportée, c'est radicalement différent.
Et alors, la tofu noisette, elle est sortie de votre imagination ?
Oui, mon fils est végétarien depuis ses 10 ans. Donc ça a été le désespoir quand il m'a dit « Maman, je ne veux plus du tout manger d'animaux morts ». Là, j'ai dit « Ah oui, alors on va avoir un petit problème parce que les boulettes, je t'en fais quand même une fois par semaine ». Donc il a fallu trouver un substitut. Parce que comme ça, il mange quelque chose qui ressemble visuellement parlant. On ne va pas ostraciser son enfant quand il fait le choix de devenir végétarien.
Et vous nous en avez préparé une deuxième, qui est jolie, bien blonde. Je m'en vais la goûter.
Beaucoup plus moelleuse.
Ah, moi j'ai reconnu un goût là. Plus légèrement fumé.
Effectivement, chou de Bruxelles ad hoc. Donc du chou de Bruxelles qui va être émincé. Du haddock fumé, donc ce poisson au goût très caractéristique qui est poché dans un mélange de lait et d'eau. Ensuite, on va l'émietter. Et la base, en fait, qui assure à la fois la tenue de la boulette et à la fois sa rondeur, sa consistance, c'est du riz rond, en fait, est cuit et mélangé avec une béchamel. Donc là, c'est une boulette sans œuf.
Et voilà le riz qui est aussi un autre agent de texture. Pour amalgamer la boulette.
Tout à fait.
Alors là, si vous mettez que du chou de Bruxelles et du haddock, même avec un œuf, ça tiendra jamais.
Oui,
vous
obtiendrez un hachis.
Alors, ou sinon, on est plutôt dans le okonomiyaki, on est plutôt dans la galette de légumes. Mais pour moi, une galette n'est pas une boulette. Vous aurez quelque chose d'autre.
Une croquette n'est pas une boulette non plus. Débat infini, Justine.
Eh bien, je trouve que c'est super crémeux, à tel point que je me suis demandé s'il n'y avait pas du fromage, parce que c'est juste que c'est très rond, oui, très réconfortant.
Bah, c'est une base de béchamel, effectivement, béchamel avec du riz. Et
Vous l'avez dit.
On a, en revanche, des boulettes qui existent avec des cœurs de fromage. On peut vraiment tout faire, on peut tout imaginer. C'est ça ce que je trouve intéressant. Une fois qu'on a compris comment fonctionne la boulette et quels sont les deux, trois trucs à pas rater sur le choix du morceau ou sur, effectivement, l'agent agglomérant qui peut être donc un œuf, une béchamel, du riz, de la mie de pain trempée, des choses comme ça. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, c'est un champ infini.
Voilà. Et on en a la preuve dans nos assiettes avec ces deux brillantes boulettes dont on retrouve la recette sur franceinter.fr à la page On va déguster. Et dans ce très chouette livre signé par vous, Déborah Dupont, Les boulettes de nos rêves avec les photographies de Géraldine Martins, texture et technique ultime. Un grand merci Déborah. Dans un instant, on continue à faire le tour des boulettes avec vous, Jean-Noël Escoffier, mais je ne résiste pas au plaisir de vous faire goûter un petit bout de la préface du facétieux Pierre-Brice Lebrun. On l'avait déjà reçu à ce micro, il est belge, spécialiste de la boulette, c'est le préfacier donc de votre livre. Il a écrit un petit traité de la boulette aux éditions du Sureau. Écoutez bien. La boulette n'est pas une préparation culinaire. La boulette n'est pas une spécialité gastronomique, même si certaines spécialités gastronomiques sont des boulettes, elles ont le droit. Entre la poule, l'œuf et la peau de l'ours, la boulette a choisi, elle est née avant même d'exister, avant que ne se forme l'arrondi de la Terre. Et c'est bien parce que la boulette existe que la Terre est ronde, croire le contraire serait une hérésie acadabrantesque. Tevas du groupe français La Femme avec Tatiana Hazel, extrait de leur dernier album Teatro Lucido, et l'Espagne et l'Andalousie justement, hein, terre de boulettes avec notamment les albondigas de pescado en salsa de limón et huevo, des boulettes de poisson servies avec une sauce à l'œuf et au citron. Ça, c'est une super recette des communautés juives qui vivaient autrefois à Malaga, et c'est dans votre livre, Jean-Noël Escoffier, Autour du monde en 80 boulettes chez Flammarion. Les boulettes au menu dont on va déguster.
On va déguster. Sur France Inter.
De l'Andalousie, on passe à la Catalogne avec une douceur tout en rondeur. Allez, on passe du salé au sucré.
Oui, avec les panelés. C'est une tradition qui date à peu près du XVIIe siècle.
Oui.
Boulettes que l'on faisait manger aux habitants des villages qui sonnaient les cloches pendant toute la nuit durant la fête de la Toussaint. Et ça leur apportait beaucoup d'énergie, puisqu'il y a dans ces boulettes uniquement 5 ingrédients. De l'œuf, du sucre, de la poudre d'amande, des citrons zestés.
Ah oui, il y a une touche de citron, clairement.
Et, exactement, et des pignons.
Les pignons entourent en quelque sorte ces panelets,
oui,
forment une espèce de d'armure, de carapace.
C'est ça, et du coup l'intérieur reste très tendre, et par contre, l'extérieur est un peu plus croustillant. Et cette recette, en fait, est une spécialité traditionnelle garantie, c'est-à-dire qu'elle est inscrite auprès de la Commission européenne avec, justement, les bonnes proportions des ingrédients. Et d'ailleurs, ces proportions sont... On multiplie le poids de l'œuf par 3, donc on rajoute 3 fois de sucre, 3 volumes de poudre d'amande, et on mélange tout ça et on fait cuire assez peu de temps, finalement, une quinzaine de minutes.
D'accord.
Pour que ça soit juste croustillant à l'extérieur.
Ça vous rappelle des goûts italiens, ça aussi, hein, certainement, avec les pinoli.
La maretta ou la pignolata, oui, de Ligurie, en fait.
Oui, oui,
la pignolata avec les pignons dessus.
Ouais, exactement, oui.
C'est une recette qui peut être partagée en Méditerranée, mais toutefois on constate en Catalogne qu'elle est codifiée et elle doit donc être servie aussi à la Toussaint, même si on n'appelle pas la police, si on se les fait en été.
Non, pas du tout. J'en ai trouvé un peu de partout, même d'ailleurs ailleurs en Espagne. Pour que ça s'appelle des panelets, par contre, il faut vraiment respecter la recette. Sinon, on la retrouve à d'autres endroits en Espagne, on appelle ça des empignonados. Et je pense qu'elle est codifiée pour éviter que les personnes qui la préparent mettent à l'intérieur de la pomme de terre écrasée, qui a à peu près la même texture que l'amande, mais qui vaut infiniment moins cher.
Et qui a moins de goût.
Et qui a beaucoup moins de goût, qui atténue beaucoup le goût d'amande. J'ai trouvé pas mal de recettes où on mettait cet ingrédient dedans, et c'est pas du tout dans la recette officielle.
On respecte les panelets catalans, s'il vous plaît, la leçon est bien retenue. On reste en Méditerranée, cap évidemment sur l'Italie, formidable terre de boulettes. Et c'est un constat objectif, hein. Ne mettez pas ça sur le compte de mon amour absolu pour ce pays. On a eu la chance, Alessandra Pierini, de voyager ensemble il y a quelques jours dans les Abruzzes, Abruzzo, en Italie. Et nous avons fait escale à la Fattoria del Trattoro chez Antonio Di Lello et sa famille, qui dresse le couvert dans un agritourisme où tout un chacun peut aller s'attabler. Et Antonio nous a fait découvrir un truc exceptionnel, donnez-nous le nom de cette spécialité sans trop dévoiler la recette.
Ce sont les pallotte, cacio e ove.
Pallotte, cacio e ove. Pallotte, ça veut dire en patois des Abruzzes.
Polpetta, donc boulette.
Avec cacio.
Cacio, c'est un fromage, et ove, c'est les œufs.
Et on précise d'avance qu'il utilise comme fromage de la tome de vache et du pecorino. Est-ce que vous voulez la recette? Vous avez le droit de me répondre.
Moi, j'ai la bouche pleine, je suis en train de la manger. La
non, on ne la veut pas.
Mais oui. Bien volontiers.
Andiamo.
Eccoci qua. Allora, cominciamo la ricetta. Formaggio.
Alors, on n'a pas trop vraiment de quantité. On met une poignée de mélange de fromage râpé, une poignée de pain qui a été râpé aussi, et du persil haché, et on commence à mélanger.
Adesso mettiamo le uova.
Donc on casse 3 œufs dans un récipient à part, on les mélange bien, on les émulsionne à la fourchette.
Adesso incorporiamo l'uovo.
Et ensuite, on les incorpore à la préparation.
Adesso lo vediamo. Nella mano non deve sporcare.
Alors ensuite, je fais un test. Je roule une petite boulette dans mes mains. Si je vois que ça tient et qu'elle ne se colle pas aux mains, c'est que c'est la bonne consistance.
Poi deve stare 5-6 minuti a riposare.
Je la laisse juste reposer 5 petites minutes.
E formiamo le polpette cacio e uovo. La nostra famiglia gli dava questa consistenza qui.
Dans ma famille, on aplatissait un tout petit peu cette boulette pour l'allonger et faire une sorte de gros gnocchi.
On préfère dans sa famille le rugby que le football?
Sì, può essere. No, ma la verità è perché
la, ça nous permet de manger des boulettes un tout petit peu plus grosses, mais qu'elles soient plus fines au cœur, de façon que la cuisson puisse pénétrer comme il faut.
Prima di mettere le polpette nel
Alors, nous avons préparé une sauce végétarienne pour cuire les polpette avec de la tomate, du céleri, de l'ail, de l'oignon, du persil que nous avons fait mijoter longtemps. Nous allons rajouter un petit peu d'eau puisque les boulettes elles vont pomper de l'eau pendant leur cuisson pour gonfler.
Adesso andiamo a mettere le nostre polpette.
Alors, nous allons plonger les polpettes dans la sauce à partir du centre de la casserole parce que c'est là où elle bout davantage.
Quando abbiamo visto che si sono gonfiate, lì decidiamo.
Et ensuite, la cuisson, c'est pareil que les quantités, c'est à l'œil. En fait, dès qu'on verra les polpettes grossir, on essaiera de déduire à ce moment-là jusqu'à quel moment on va les laisser dans la sauce.
Formidable recette avec le ploup 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 de ce sugo di pomodoro où vont justement gonfler ces boulettes à base de fromage et d'œufs. Vous retrouvez sur le site de l'émission la recette écrite de ces fameuses pallotte, cacio et ove. Et on a également tourné une vidéo chez Antonio et sa famille dans la Fattoria del Trattoro que vous pouvez retrouver sur le site de l'émission. J'en profite pour vous annoncer une émission sur la cuisine des Abruzzes. Cette cuisine aussi excellente que méconnue, ce sera le dimanche 19 mars, en votre compagnie évidemment, Alessandra Pierini. Eh bien, on poursuit avec vous ce Giro d'Italia delle polpette, avec vous Alessandra Pierini.
France Inter.
Buon appetito.
On va déguster.
Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un personnage italien assez curieux qui a beaucoup écrit sur la cuisine santé à la fin du 19e siècle. Un médecin gourmand qui a tracé les bases d'une longue et saine existence en mangeant, bien sûr, des polpettes.
Ah, évidemment, des polpettes. Alors déjà, si on peut rappeler l'étymologie du mot.
Donc, polpetta vient de polpa, qui veut dire pulpe, chair, sous-entendu, bien sûr, de viande. Mais ce médecin, c'est Oscar Giacchi, d'origine milanaise. Et voici le titre de son œuvre, « Le docteur en cuisine, ou pourquoi on mange et comment il faut manger ». L'ouvrage, qui dédicace à sa femme Valentina, est préfacé par tout un chapitre explicatif des principes théoriques qui ont animé son écriture et regorge de recettes et de conseils pour rester en bonne santé ou pour retrouver la santé perdue.
Ah oui, c'est ambitieux quand même.
Ah oui. Parmi les convictions de l'auteur, il convient de mentionner celle concernant l'utilisation des polpettes comme remède à tous les maux. Il écrit... Les polpettes faites sans aucune restriction d'ingrédients sont vraiment une friandise qui se mange volontiers. Je les recommande chaleureusement, en particulier aux personnages ascendants, aux jeunes et en général à ceux qui ne peuvent pas se permettre d'avaler autre chose. Par contre, si on en mange trop souvent, on s'ennuie vite, comme le prouvent ces familles pauvres qui ont le malheur d'avoir un malade à la maison pendant plusieurs jours. Ce plat de remise en forme est si fréquent dans ces cas douloureux que je propose l'ajout d'un nouveau proverbe populaire « malade au lit, boulette sur table
». Ah oui, d'accord. Donc ce serait le remède de pas mal de mots quand même.
Absolument.
À commencer par ceux qui effectivement sont privés de dents et qui peuvent manger des boulettes facilement.
Voilà, selon les ingrédients qu'on met, c'est plus facile que d'autres. Nous assistons donc ici à un phénomène assez intéressant. Les boulettes remplacent le bouillon prescrit depuis la nuit des temps en cas de maladie ou convalescence, car elles seraient tout aussi saines. Nous ne sommes pas loin de la vision des boulettes que nous avons aujourd'hui, un vrai plat réconfortant qui allie simplicité, souvenir, des saveurs familières et une forme rassurante. Un vrai remède qui satisfait le corps et l'esprit. Et donc, je vous dis, si on alliait le bouillon à la boulette...
Bah, très bonne idée, voilà. Des boulettes dans un bouillon.
Dans un bouillon. Et notre sacré docteur Oscar Giacchi dirait sûrement « Magnifico, vas-y !» Pour ça, il faut monter tout au nord de l'Italie, au pied des Dolomites, dans le Trentin au Adige. Décidément, c'est une région que j'aime beaucoup. On en a parlé aussi dans la dernière émission.
On a consacré une émission sur les Dolomites.
On monte là-haut pour goûter les canne d'Arlimbrodo, des grosses boulettes de pain qui sont cuites puis mangées dans un bouillon, dont le terme est une adaptation dialectale du mot allemand Knödel, donc grumeau, bosse, nœud. Et dans le dialecte ladin, vraiment du Sud-Tirol, on appelle les canne d'Arlimbrodo aussi des balote. Avec ce terme, nous sommes vraiment très très proches des boulettes. La version plus traditionnelle prévoit dans les ingrédients du speck.
Et oui, évidemment, ça c'est la salaison.
Le jambon fumé local. Et la mortadelle, éventuellement, mais je voudrais plutôt partager avec vous aujourd'hui la version aux épinards. C'est une version que vraiment j'adore. Ce plat est né comme recette pauvre pour ne pas gaspiller le pain sec et les restes du placard. Mais, comme souvent dans la cuisine paysanne, beaucoup de simplicité et beaucoup de saveur. Pour environ 8 canne d'Arli, donc 3-4 portions.
Sachant que le diamètre du canne d'Arli, il est quand même assez important.
Assez important, hein. 5 cm, je conseille. Hein. C'est entre la
balle de tennis.
Balle de tennis et la clémentine. Balle de ping-pong.
Oui,
belle clémentine.
Ouais.
Belle clémentine, ouais. bien costaud. Donc il faudra préparer d'abord 2 litres de bouillon végétal. Ensuite, couper le pain rassis en tout petits dés avec la croûte. Le déposer dans un saladier. Le mouiller avec un peu de lait pour l'assouplir et pendant ce temps, on découpe un oignon très finement qu'on fera suer dans une poêle avec un peu de beurre. Dès qu'il sera prêt, on l'ajoutera dans le saladier avec le pain et avec 200 g d'épinards frais qu'on aura préalablement blanchis dans l'eau bouillante et bien égouttés. Un œuf, 50 g de parmesan ou, pour rester locaux, du Trentingrana, un peu de persil haché, du sel, du poivre, un peu de noix de muscade. Si la farce est un peu trop humide, on met toujours la fameuse cuillère de farine, un petit peu de chapelure de pain. Et on commence à former avec les mains des boulettes de 100 cm de diamètre qu'on fera cuire dans le bouillon chaud pendant une dizaine de minutes. On les sert dans l'assiette creuse avec le bouillon Et bien sûr, bon appétit.
Et c'est surtout régal à la clé, hein. C'est vraiment délicieux, non ?
Oui, c'est tout à fait délicieux. Moi, je connaissais plutôt la version avec le speck. Et je trouve que la cuisson, parfois, peut être un peu délicate de les tremper dans les bouillons, parce que ça m'est arrivé d'avoir tout ce défait. Je les cuis parfois, parce que j'en fais assez souvent, ça accommode bien les restes. En fait, je les fais cuire vapeur, et ça fonctionne aussi très bien.
Mais la version aux épinards va avoir un succès fou auprès de nos auditeurs. Votre recette est sur notre site, évidemment. Quelque chose à ajouter ?
Bah, éventuellement, moi, je mettrai un petit peu de parmesan râpé dans l'assiette. Bon, le parmesan, j'en mets partout, c'est mon épice.
Bravo, Alessandra Pierini. Franchement, très très belle initiative, que c'est délicieux. Canet d'Erly. Jean-Noël Escoffier, ça se bouscule évidemment sur le mail dont va déguster, sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Il y a Marie-Claire de Layol qui a l'air de se plaindre un peu. Vous nous parlez pas beaucoup de la France. Est-ce que notre pays serait désavantagé en termes de boulettes ? Y a-t-il des boulettes françaises dans votre livre ?
Alors oui, il y a des boulettes françaises. Il y en a quand même très peu. Ça fait pas partie de nos traditions culinaires. Mm-hmm. Il y a les caillettes dromoises ou ardéchoises qui peuvent être considérées, de mon point de vue, comme des boulettes. C'est pas le cas de tout le monde.
Définition d'une caillette ?
De la gorge de porc avec, suivant les régions, des épinards ou des vers de blette. En Haute-Loire, on fait ça avec du chou également. Mm-hmm. Et on mélange le tout, on enveloppe ça dans une crépine. On fait cuire ça au four avec du vin blanc. Et on déguste ça avec une salade et des pommes de terre, généralement tièdes.
Vous développez également là une recette de boulettes de viande assez connue du côté de la Catalogne française.
Oui, les bols de picola, qui sont des boulettes, c'est une sorte de ragoût de boulettes en fait, qui peut ressembler un peu à du cassoulet parce qu'il y a également des à l'intérieur des haricots secs. Mais voilà, c'est un plat type ragoût qu'on retrouve dans la région de Perpignan surtout.
Il y a aussi ce kromeski qui serait d'origine polonaise, qui s'est intégré dans la cuisine française, qui correspond en fait à une espèce de sphère, pour le coup, de panure, avec une coque assez croustillante et un cœur tout à fait explosif, souvent fait d'ailleurs avec du foie gras.
Ça peut être fait avec du foie gras, ça peut être fait aussi avec du fromage. Généralement, d'ailleurs, l'intérieur est souvent tellement coulant qu'on le congèle avant de le mettre dans cette boulette. Et puis voilà, la première fois qu'on en a vraiment parlé, c'était dans le guide culinaire d'Escoffier, que j'apprécie beaucoup.
C'est, selon Justine Knapp, le pays de la boulette, mais je décline toute responsabilité. On va le découvrir, et surtout dans le verre.
On va déguster sur France Inter.
Justine Knapp, eh bien vous avez mis, alors petit indice géographique, le cap à l'est, on peut même dire qu'on est au centre de l'Europe.
Boulette à la semoule plongée dans du bouillon de bœuf, boulette à base de pommes de terre ou à base de pain blanc rassis. Bon, celles-là, elles sont mangées en accompagnement avec un rôti de porc en sauce et un peu de choucroute par exemple. Où sommes-nous attablés ? Petit indice, le menu est en allemand.
Alors, on était dans le Trentin au Adige, dans les Dolomites au nord de l'Italie avec Alessandra. Je crois qu'on n'est pas très loin, mais quelqu'un a trouvé la destination ?
Autriche.
Oui, c'est l'Autriche.
Bravo.
Je vais vous parler de ce pays et de ces fameuses Knödel. Grissknödel avec la semoule, Kartoffelknödel avec les pommes de terre, Semmelknödel avec le pain. Et dans la région du Tyrol, on ajoute dans ces boulettes de mie de pain un peu de speck. C'est donc une recette commune avec l'Italie toute proche qui parle, elle, de Canet d'Erly, Alessandra.
Et ben voilà, la boucle est bouclée. Et comme on parle de boulettes, ça tombe bien.
Alors, pour accompagner, en général, on boit de la bière ou du vin blanc. L'Autriche, c'est le pays du blanc. On connaît son cépage emblématique, le Grüner Veltliner. Et vous devinez déjà qu'on n'en boira pas une goutte aujourd'hui à la couleur de vos verres.
On peut dire que c'est rouge, hein.
Oui, c'est rouge.
Un joli grenat.
Voilà, c'est ça. Un joli grenat, comme dit Déborah.
C'est même profondément violacé. En Autriche, il y a aussi du rouge, un tiers de la production. Une région, si vous particulièrement, c'est la plus chaude du pays, donc c'est parfait pour bien faire mûrir les raisins. C'est le Burgenland. Presque autant d'hectares qu'en Alsace, à l'est de l'Autriche, comme le reste du vignoble d'ailleurs. Et dans le vin du jour, deux cépages locaux, un peu de Saint-Laurent et beaucoup de Zweigelt. C'est le cépage rouge le plus répandu, mais qui n'a pas ici le profil traditionnel. Donc je vous laisse déjà le goûter pour vous faire une idée. Pas besoin de tire-bouchon. En Autriche, les bouteilles ont adopté depuis longtemps les capsules à vis. Ça permet de se prémunir du goût de bouchon, ce qui n'est pas plus mal.
Oh là, qu'est-ce que c'est bon, Alessandra.
J'adore. Ça me rappelle un peu des vins justement del Trentino Alto Adige où on utilise aussi le Zweigelt, ce cépage. Tout de suite un peu cerise.
Voilà.
mes cerises, la cerise un peu acidulée légèrement, où il y a de la rondeur tout de suite en arrivant, la légère acidité qui reste en fin de bouche, un vin très digeste.
Bon, bah, si, la chronique est faite, hein. Mais c'est vrai, il y a véritablement une fraîcheur, mais une fraîcheur effectivement dans les acidulés, hein.
Oui, c'est ça. Alors en fait, dans le Burgenland, deux mondes cohabitent, les domaines amateurs du style traditionnel et des stars du vin naturel. Donc on peut boire à la fois des rouges corsés, charpentés, boisés, les Autrichiens les adorent, et on trouve aussi des vins, comme celui que j'ai apporté, cuvée Beck Inc, un vin cristallin, fluide comme de l'eau de source. Il y a de l'acidité, effectivement, ça renforce la sensation désaltérante, mais ce n'est pas juste de l'eau, hein. On a de la mâche, c'est intense de fruits, de baies, de cerises, sans aucun doute. Et le vin, il est aussi subtilement corsé, poivre noir, des notes de fumée et de suie qui lui donnent du sérieux. Tout ça reste précis, on ne part pas dans tous les sens. Peu d'alcool, une envie simple de boire un deuxième verre, c'est exactement ce qu'adore la vigneronne Judith Beck.
L'Autriche, pays de montagne, il ne s'agit pas pour autant d'un vin d'altitude.
Non, on est en plaine, sur les rives du lac de Neusiedl, l'un des plus grands d'Europe. Dans le village de la vigneronne Judith Beck, une centaine de familles vigneronnes les unes à côté des autres, des méthodes de culture complètement différentes, de conventionnelles à biodynamiques. Et 30 ans plus tôt, une dizaine de vignerons engagés en bio ont monté l'association Panobil, dont le père de Judith. Alors pourquoi ? Parce que dans les années 80, pour faire connaître la qualité de ses terroirs dans le monde, l'Autriche, elle a joué le jeu du goût international avec des vins puissants à base de Merlot, Cabernet, Syrah, etc. Et l'association Panobil, elle a voulu recultiver une identité plus régional, avec des cépages autochtones, moins de raisins dans les vignes, mais de meilleure qualité, et des vinifications les plus douces et naturelles possibles.
Et cette association tourne toujours.
Oui, ça... maintenant c'est la seconde génération qui est aux manettes, comme la vigneronne Judith Beck, et l'essence n'a pas bougé, le but n'est pas de viser la modernité, mais de produire des vins haut de gamme de la région. Et chaque année, chaque membre produit une cuvée spéciale, qui s'appellera Panobil. Plus belle parcelle, reflet des cépages locaux, des sols, du climat. Tout le monde goûte pour s'en assurer et délibère avant d'attribuer la mention Panobil. Donc c'est une façon de présenter un éventail de vins typiques, qu'on peut d'ailleurs acheter en coffret. Et c'est le même principe qu'une appellation officielle. Là, c'est imité en interne avec des critères auto-imposés.
Parce que ces vins ne peuvent pas prétendre à l'appellation officielle de la région, c'est bien ça ?
Certains, oui, d'autres, non. Alors, Judith Beck le regrette, mais le profil de ces vins ne semble pas correspondre à ce qui est attendu d'un vin du Burgenland. Trop peu d'alcool, trop d'acidité. Les Autrichiens n'en sont pas friands non plus. Leur goût est assez conservateur, selon les mots de la vigneronne. En tout cas, en dehors de Vienne, hein, la capitale. Judith Beck, elle doit donc vendre 90% de sa production à l'étranger. Mais moi, je m'en réjouis, puisque c'est ce qui m'a permis de trouver ce vin ici, en France, à 15 euros.
Gros coup de cœur, hein. Très franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez autour
délicieux.
Du plateau.
Délicieux.
On est et puis sur un vin qui se prête très très bien aux boulettes, hein. Pas seulement pour son amplitude et sa rondeur d'ailleurs, mais une rondeur tout en légèreté. Vraiment bravo. Hein. Et on finit cette émission avec une spécialité là encore, c'est ça la vertu de ce livre, c'est que moi je l'ai feuilleté avec une joie d'enfant, et parce qu'il émerveille par toutes les découvertes que l'on peut y faire, preuve que la boulette justement se transforme, voyage, passe d'une culture à l'autre, vous allez nous parler d'une spécialité. Alors, si j'ai bien compris, elle est indonésienne, mais elle a évidemment un accent hollandais ou un nom à consonance hollandaise pour des raisons historiques, puisque les Pays-Bas ont été les colons de l'Indonésie.
Exactement, oui. Elle s'appelle la perkedel, le terme perkedel viendrait de fricadelles, qui sont donc les boulettes qu'on peut retrouver aux Pays-Bas et dans tout le nord de l'Europe. C'est une boulette indonésienne. Celle dont je parle dans le livre en particulier est la perkedel kentang. Kentang, c'est pomme de terre. Ils font en fait sauter ces pommes de terre. Ensuite, ils écrasent la chair et du coup, il y a déjà un goût assez soutenu de la pomme de terre. On va ensuite mélanger ça à peu près à un tiers du volume de viande qu'on va amalgamer à cette purée. On va ajouter de la ciboulette, de l'oignon frit, de la fécule de maïs, un peu de noix de muscade. On va mettre un jaune d'œuf. On va garder le blanc pour après. On ajoute un peu d'ail et de sel et de poivre. On mélange le tout. Et ensuite, on fait des boulettes à peu près de la taille de balles de ping-pong, qu'on va ensuite aplatir sous forme de galets un petit peu. On va tremper ces galets dans un œuf battu avec le blanc qui reste. Et on va faire frire ça dans de l'huile chaude à 170 degrés.
Bon, et malheureusement, vous ne les avez pas cuisinés.
Non, désolé.
Non, je ne voulais pas demander, monsieur Chary. Je ne voulais pas demander. Vous avez été déjà extrêmement généreux avec, d'ailleurs aussi, cette boulette indonésienne que l'on peut retrouver sur France Inter. France.fr à la page On va déguster et dans votre livre dont on pense le plus grand bien autour du monde en 80 boulettes, recettes salées, sucrées et végétariennes chez Flammarion. Bravo Jean-Noël Escoffier, vous reviendrez ?
Oui, bien sûr. J'en ai recensé 400, donc je peux faire plusieurs volumes.
Et puis un autre livre de rêve sur les boulettes, c'est Les boulettes de nos rêves aux éditions First. Avec les photographies de Géraldine Martins. Merci Déborah Dupont, à la prochaine.
Merci.
Merci Justine.
À la prochaine.
Merci Alessandra.
Ciao ciao.
La semaine prochaine, on se penche sur, attention, le goût de Montréal. Nous dressons le couvert dans la capitale du Québec pour une émission en public à l'occasion de Montréal en lumière. On est tellement contents d'aller voir nos cousins d'outre-Atlantique. Zazie Tavitsian, Jérôme Gagnez et Stéphane Solier seront d'y voyage à dimanche prochain. Si vous avez encore faim. Dans un instant, vous retrouvez Question politique avec Thomas Snegaroff.